Bienvenue, bonne venon, Esperanto Magazino numéro 153. Nous sommes le 14 mai 2018, de 20h à 21h, tous les lundis soirs sur Canal Sud 92.2, sur les ondes en local, sur canalsud.net et sur la toile partout dans le monde. Une émission spéciale ce soir dans le cadre de la Semaine de l'Europe à Toulouse. Aujourd'hui au programme la traduction, la diversité linguistique en Europe et l'espéranto. On accueille ce soir un public, la foule est en délire. Nous commencerons par un Kio Novas rapide, ce qui correspond à notre quad neuf dans le monde de l'espéranto. Puis nous passerons à la partie Renkontijo, deux rencontres avec Irénée, la gagnante du concours des traducteurs, par téléphone, et sa prof d'espagnol qui est ici avec nous, Marlène, bonsoir.
Bonsoir.
Et la diffusion d'une interview que nous avons réalisée lors de la semaine de l'espéranto, CEMEO, il y a déjà quelques temps, avec Sandrine Kerrer-Spars, représentante de la Commission européenne. Et nous finirons par la rubrique habituelle, Agendo, l'agenda. Et tout au long de l'émission, pardon, de la musique en espéranto, de tout style et de tout pays.
Kai por niaj aŭskultantoj kiuj ne tre bone komprenas la francan, mi anoncas ke ni multe parolos france ĉivespere. Estos speciala elsendo kadre de la Eŭropa Semajno de Tuluzo, do ni bonvenigas en la elsendo pluraj invititojn kiuj parolas pri tradukado, pri lingva diverseco, pardonu min, en Europo kai pri Esperanto. Kai nun muziko Jacques Brel en Esperanto.
Promena si a pugli sur a rempar de Varsovi. Promena si a cor con stulturezza in opini. Promena si a omdun en Florence en Itali. Mem stare certe viva si. Promenas cap dolor en frumate en melancoli. Promenas si dum noct pro an imprema fantasi. Promenas cun stultul flate vapor si a mani. Servanton taugan havas si. Dum e mi en vesper tenas vesteion ce al casar. Promenas si a ag lau calendar cun nuanz. Promena sia brusca kai logas al plei nova chans. Promena sia splendis bordo de lac de Constance. Lau circonstans oi viva si. Promena sia hund ki un ci flegas cun scienz. Promena sia iun change na laula circonstans. Promena sia rus accent zorgota ec cun pacienz. Chale pariso est asci. Dum e mi en vesper ludas kelneron ĉe Alcazar. Promenas ŝia har vapora kiel la muslin. Promenas la okul al la olduloj kun uzin. Promenas ŝia rid alloga kiel vazelin. Nu petore maestas ŝi. Promenas ebriec de glas al glas de brandalgin. Promenas ŝi en lider garnizon pro Corinthin. Promenas ŝi kun dir ke estas minjonja Jacqueline. Fia amikino estas ŝi. Dume mi en vesper estas kantistino ĉe Alcazar. Promenas ŝia man ĉe la oficiroj kun insist. Promenas mia mon al soldatara tuta list. Promenas ŝia aŭt kaj pagas mi por ĉiu risk. Ioma plomba estas ŝi. Promenas al casin por perdi monon kun persist. Promenas juvelar facturas al mi juvelist. Promenas ŝi kun Rolls kiun sekvas asignist. Ioma rapida estas ŝi. Dume mi en vesper lavas la glasojn ĉe Alcazar. Promenas ŝia pug sur la rempar de Varsovi. Promenas ŝia cor kun stulturezza en opini. Promenas ŝia omdun en Florence en Itali. Mem stare certe viva ŝi. Promenas cap dolor en frumaten melancoli. Promenas si dum noct pro an imprema fantasi. Promenas cun stultul flate vapor si a mani. Servanton taugan havas si. Dume mi en vesper tenas vesteion ĉe Alcazar. Promena ŝia aĝa kalendaro kun nuance. Promena ŝia bruska yoga sol plej nova ŝanco. Promena ŝia splendis bordo de la de Constanz. Laŭ cirkonstancoj viva ŝi. Promena ŝia hun kiun ŝi flegas kun scienc. Promena ŝia jun ŝanĝema laŭ la cirkonstanc. Promenas rusa ĉe zorgoto eĉ kun pacienc. Ĉar de Parizo estas ŝi.
Kio novas, quoi de neuf? Le Polyglot Gathering est un rassemblement de polyglottes qui, après des années à Berlin, aura lieu pour la deuxième année à Bratislava du 30 mai au 3 juin 2018. En dehors des rencontres et du plaisir pour les centaines de participants de parler toutes les langues qu'ils connaissent ou apprennent, un riche programme de conférences en différentes langues est proposé dans le cadre de l'Université d'économie de Bratislava. Le programme 2018 est en ligne. Des vidéos des conférences des précédentes éditions sont visibles sur YouTube, dont certaines ont un rapport avec l'espéranto. Ce sera à nouveau le cas cette année. Cette rencontre est co-organisée par des espérantistes et en l'occurrence Peter Balash de l'association ECHEI, une association dont la langue de travail est l'espéranto, qui accueille en Slovaquie entre 4 et 5 volontaires européens chaque année pour des projets d'éducation populaire en lien avec Internet. Ils sont notamment à l'origine des sites d'apprentissage de langue slovaque.eu et deutsch.info pour apprendre le slovaque et l'allemand.
Le 1er et le 2 juin 2018, TEIO, qui est l'Association mondiale des jeunes espérantistes, participera à la rencontre des jeunes européens à Strasbourg, avec une délégation d'une trentaine de jeunes espérantistes. Plusieurs milliers de jeunes participeront à ces deux jours. À deux pas du Parlement européen se tiendront conférences, plénières et ateliers, mais aussi des concerts et de nombreuses activités informelles. Les organisations de jeunesse participantes pourront y présenter leurs buts et activités et ensemble montrer que les nouvelles générations ont aussi des choses à dire. La vice-présidente de TEIO, Constance Schönfeld, désolée pour la prononciation, a participé à la rencontre de préparation à Strasbourg et est très enthousiaste. Plus de 10 000 jeunes sont attendus. TEIO coordonnera le forum associatif Laborante por pli forta Europa, travailler pour une Europe plus forte, et organisera des activités en son sein pour la première fois à l'intérieur du Parlement. Je la cite, « Nous parlerons à ces nombreux jeunes venus de toute l'Europe de l'espéranto, de la diversité linguistique et des droits linguistiques. » TEIO a déjà participé aux précédentes éditions en 2011 et en 2014 et comme partenaire officiel en 2016.
Sur le site de nos partenaires du projet Erasmus+, sur l'enseignement des langues, vient de paraître un article sur le séminaire qui a eu lieu à Toulouse en mars dernier pendant CEMEO, la semaine de l'espéranto. L'article est à lire sur le site des jeunes espérantistes tchèques. Tous les liens à retrouver sur notre site esperanto-midipyrénées.org.
Et on continue avec un petit morceau de musique.
Povas ne paroli pri la kial de via chagrin vi ŝategus sed ĝi estas super mia kompren. Verŝajne via malfeliĉo estas profundega mister. Nu via reĝo iĝ ne estos senpena afer. Kiam pli juna estis vi, sufficis canti tion ci. Ne ploru plu, cara infan, estas jalusa la fontan. Neniu pretas por la ban, sed supreniĝas l'ocean. Estas akve mia pian, estas fiŝ en mia ekran. En mia lito dormas ran. Ne ploru plu, kara infan. Ne ploru plu, ne ploru.
finfine malgranda clarig venas per ne malgranda text temas pri an pri forta lig temas pri dran sed ne pri sex ti and clamon devas mi pagi per respecta silent nenio indas diri en tiel solena moment nu se pli simpla estus vi sufficius canti tion ci ne plu Esta jalusa la fontana Neniu pretas por la ban Sed supremigas l'ocean Estas aqua en mia pian Estas fish en mia ecran En mia lito dormas ran Ne ploru plu, cara infan Ne ploru plu Ne ploru plu Nu shainas che mia ce est helpas nur conscigi vin pri la nobla belez de via malhela desti mi la sudo vin tie ci sola sed con via juvel tutte tranquillas mi Ja ne estas risko prište.
Et donc c'était Guillaume qu'on vient d'écouter et on va enchaîner, on va avoir le plaisir d'accueillir normalement si tout va bien Irénée au téléphone. Irénée, est-ce que tu m'entends ?
Oui, bonjour.
Bonsoir, bonsoir à toi. Tu nous appelles d'où en fait aujourd'hui ?
Je vous appelle de chez moi, car je n'ai pas pu être présente, car je prépare le concours pour Sciences Po Paris.
D'accord, ok. Donc, merci d'avoir pris ce temps pour nous appeler. En tout cas, on a la chance d'avoir dans le studio quelqu'un que tu connais. Donc, Marlène, c'est ta prof d'espagnol, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Donc, vous pouvez vous saluer.
Hola.
Hola.
Ah oui, c'est en espagnol, d'accord, qu'on enchaîne. Je n'avais pas prévu ça. Donc, pourquoi on t'a invité, Irénée ? C'est parce que, alors, il y a quelques mois, tu as gagné un concours qui s'appelle Juvenes Translatores. Et en quoi consistait ce concours ? Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ?
Oui, c'est un concours qui est organisé par la Commission européenne tous les ans. Et qui propose à des lycéens de 17 ans de tous les pays de l'Union européenne de traduire un texte de la langue de leur choix vers la langue de leur choix, en fait, tant que c'est dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Et donc, ils proposent de traduire un texte. Et après, il y a un lauréat par pays. Et j'ai eu la chance de rencontrer les 27 autres lauréats à Bruxelles. Donc.
D'accord. On va revenir peut-être après sur cet événement à Bruxelles. J'aimerais revenir juste sur comment tu as eu la chance de participer à ce concours. Donc peut-être, Marlène, vous pouvez nous expliquer comment le lycée Saint-Cernin, a décidé de participer. Est-ce que c'est à votre initiative ou comment vous l'avez su, que l'existence de ce concours, comment vous l'avez connu?
Oh, en fait, c'est à mon initiative. Je l'ai appris par ma fille qui est enseignante en Allemagne. Donc, c'était vraiment, disons, pas le hasard, mais ce n'est pas les canaux officiels, quoi.
Mm-hmm. Oui, parce que c'est vraiment donc un concours européen dans tous les pays.
Tout à fait.
D'accord. Et donc, comment ça s'est passé? C'était facile de s'inscrire? Il y a eu...
C'était toute une démarche à partir du mois de septembre. J'ai pris les 3 élèves qui me semblaient avoir, qui étaient assez battants et qui pouvaient comprendre ce que voulait un écrivain ou un journaliste et puis traduire et réfléchir sur ce qui est écrit. Mmh. Voilà. Et voilà. Donc, c'était plutôt, au début, j'ai fait comme ça. L'année prochaine, je vais faire un appel à d'autres collègues parce qu'on peut le faire avec d'autres langues aussi.
D'accord. Voilà.
Et là, c'était de l'espagnol vers le français ou...
Oui, il est né, il a fait de l'espagnol vers le français. Et les 2 autres candidats aussi, candidates aussi.
D'accord.
Et donc, il est né, a eu le premier prix. En fait, elle est lauréate, mais sur toutes les langues, en fait. En France, toutes les langues.
D'accord.
La seule.
Et Irénée, quand ta prof t'a parlé de ce projet, comment tu as réagi au début? C'est quelque chose qui t'a... qui t'a tout de suite branché, enthousiasmé ou...
Oui, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu parce que moi, je suis en filière littéraire déjà, donc j'aime beaucoup les langues. Et c'est vrai que, par exemple, je suis aussi en section internationale et du coup, je fais beaucoup d'espagnol par semaine. Et c'est vrai que ça m'a paru une bonne idée et ça me plaisait bien. Et le fait que ce soit un concours européen, je trouvais ça intéressant aussi.
Et est-ce que c'est un exercice, la traduction, que vous travaillez parfois en cours ou c'était la première fois que vous faisiez ça? Enfin, je sais pas, je pose la question aux deux en même temps.
C'était c'était un peu la première fois que je faisais de la traduction, puisque c'est vrai qu'en cours, on fait pas... c'est un exercice que, au moins moi, dans les cours que j'ai eus, j'ai très peu travaillé. Du coup, c'était assez... original, c'était une des premières fois que je traduisais vraiment, en plus dans des conditions d'examen, etc. Donc...
Ah, c'était des conditions particulières, en fait. On t'a pas laissé le temps pendant un mois de réfléchir, en fait. Dans un temps imparti. Tu peux nous expliquer justement comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais le choix du thème? Est-ce que tu l'as découvert sur le moment ou...
Non, en fait, il y avait un texte par langue, et donc tous les élèves qui traduisaient de l'espagnol vers une langue avait le même texte. Mmh. Et donc, on a tous, il me semble que dans tous les lycées qui participaient, on a composé en même temps. Et du coup, c'était une épreuve de 2 heures. On n'avait pas plus de temps, on n'a pas pu choisir le texte non plus.
Vous aviez droit au dictionnaire, rassure-moi.
Oui.
Bon, très bien. Et qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile dans cet exercice?
Je pense que c'était de savoir aussi se séparer un peu du texte, parce que c'est vrai que quand on essaie de traduire, on a tendance à traduire mot pour mot, alors que je pense que ce qui fait la différence dans une bonne traduction, c'est aussi de savoir donner une touche un peu plus, enfin, pas personnelle, mais qui soit propre à la langue et plus, que ce soit plus seulement traduire mot par mot. Mmh.
Oui, alors, en fait, dans l'enseignement français, depuis un certain temps, on n'a pas à faire de traduction. Parce que je trouve que, bon, ça manque un petit peu là. Mais,
c'est plus la mode, c'est sûr.
Mais voilà, ça a été avant, ça, c'était, on pouvait faire, il y avait une consigne où il y avait la traduction. Ce n'est plus le cas. Donc, une traduction, Irène l'a bien dit, elle n'a pas fait comme ça, de cette manière-là, non. Sur le site de la Commission européenne, de Juvenes Translatores, il y a les documents des années précédentes. Donc, ils savaient, les candidats savent. S'ils veulent vraiment s'y investir, ils vont voir, chercher là sur la web et ce qui a été fait, et, disons, un petit entraînement et puis conseils, mais en même temps, ne pas les stresser. Voilà, parce que c'est un travail de plus pour eux.
Et oui, c'était en dehors de ce qu'on demandait pour le lycée et pour le cours d'espagnol.
Oui.
Vous avez parlé de Bruxelles. Qu'est-ce qui... Enfin, tu as parlé, Irène, de Bruxelles et de tes rencontres avec plein d'autres lauréats. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à Bruxelles et quand ça s'est passé et pourquoi ?
Oui, donc nous avons tous été invités avec donc le professeur qui avait organisé dans chaque pays le concours. Et aussi, un ou plusieurs membres de notre famille, nous avons tous été invités à Bruxelles pour la remise des prix. Et ça a été un séjour sur 3 jours dans lequel nous avons donc eu des temps libres pour visiter la ville, également donc la cérémonie de remise des prix. Et aussi, nous avons eu la chance de visiter la Direction Générale de Traduction, donc les traducteurs de la Commission européenne. Et donc, on a pu également parler avec les traducteurs. Et c'était très intéressant donc de tous les points de vue, puisque on a pu rencontrer des gens d'autres pays. J'ai pu rencontrer des élèves qui venaient de différents pays, et c'était très intéressant. Et également parler avec des traducteurs professionnels, c'est vrai que c'est complètement différent.
Est-ce que ça t'a donné envie, peut-être, ce concours et cette rencontre, de, je sais pas, peut-être t'orienter vers cette filière, ou est-ce que tu as d'autres projets pour ton avenir professionnel?
Bien, je sais pas, j'avais pas vraiment pensé à être traductrice. C'est vrai que c'est tout d'un coup j'ai appris plein de choses sur la traduction, et c'est un univers qui m'intéresse, mais je pense que je ne pense pas en faire mon métier, mais je pense que les langues vont quand même avoir une grande place dans ma vie. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui de savoir manier des langues, et donc de savoir traduire d'une langue à l'autre, peut-être.
Et donc, l'an prochain, tu es en quelle classe cette année? En terminale.
En terminale.
D'accord. Oui. Donc, l'an prochain, là, tu passes des concours, c'est ça, si...
Oui.
D'accord. Et donc, l'an prochain, le lycée, votre classe d'espagnol, peut-être accompagnée d'autres langues, va de nouveau reparticiper à ce concours.
Oui, certainement. Certainement. C'était une très belle expérience. Irène était vraiment heureuse, et vraiment je pense que il faut faire en sorte que nos jeunes aient une envie d'apprendre, qu'ils découvrent d'autres cultures, parce que Bruxelles, c'était vraiment une grande découverte pour tous ces jeunes. Oui. C'était vraiment génial. Génial.
Bon, en tout cas, bonne chance à toi, Irène, pour la poursuite de tes études, à Marlène pour les futures années, peut-être, je sais pas, dès l'an prochain, un retour à Bruxelles, peut-être.
Espérons.
Est-ce que ça s'est déjà fait que deux lycées gagnent le concours 2 fois de suite? Peut-être, si la prof a du talent, je sais pas. Bon, en tout cas, merci à toutes les deux d'avoir participé à l'émission. Et on va continuer un peu sur ce thème en écoutant justement une personne que vous avez rencontrée qui est venue vous voir à Toulouse, Sandrine Kerespar, si je me souviens bien de son nom, et qui donc a été interviewée il y a 2 mois, un peu plus de 2 mois, dans un café de Toulouse. C'était à l'occasion justement quand elle était venue rencontrer Irène au lycée Saint-Cernin. Et elle va continuer à nous parler un petit peu de ce thème et de la traduction, de l'importance de la traduction dans l'Union européenne. On va écouter une petite chanson et tout de suite après son interview. À tout à l'heure.
Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Alors vous êtes travaillez à la représentation de la Commission européenne à Paris.
Exactement.
Et est-ce que vous pouvez un petit peu détailler votre rôle, vos missions ?
Oui. Alors donc je suis traductrice. J'ai travaillé donc pendant 7 ans à la direction générale de la traduction de la Commission européenne à Bruxelles, donc de 2008 à 2015, où je faisais de la traduction pour 100% de mon temps. Et depuis 2015, je suis affectée à la représentation en France de la Commission européenne, où je continue à faire de la traduction, mais pour 30% à peu près de ma charge de travail. Et le reste du temps, j'assure la promotion de l'apprentissage des langues et du multilinguisme en France. Donc il y a une représentation de la Commission européenne dans tous les États membres de l'Union européenne. Ça fonctionne un peu comme une ambassade. Il y a des analystes politiques, des analystes économiques qui analysent comment la France applique les politiques de l'Union européenne, et il y a un traducteur qui est chargé de traduire les communiqués de presse qui arrivent de la Commission tous les jours en anglais et qui doivent être traduits en français pour la presse française. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition des rédactions, des journaux français, une information sur l'Europe en français. Donc pendant la période où j'ai travaillé à Bruxelles, je traduisais différents types de documents et différentes langues. Je traduisais l'allemand, l'espagnol et l'anglais vers le français, des documents à la fois juridiques, économiques, législatifs. Et maintenant, je traduis plus que des communiqués de presse de l'anglais vers le français.
Et c'est dans ce cadre que vous organisez le concours des jeunes traducteurs ?
Voilà, alors le concours Juvenes Translatores, donc le concours de jeunes traducteurs, est organisé tous les ans par la Direction Générale de la Traduction de la Commission Européenne. L'idée, c'est de faire composer tous les élèves de 17 ans de l'Union Européenne sur un même texte. Enfin, il y a en fait le choix dans les 24 langues officielles de l'Union Européenne. Donc, les élèves sont libres de leur combinaison linguistique. Donc, la lauréate, cette année, pour la France, a choisi de traduire de l'espagnol vers le français. Mais les années précédentes, les lauréats avaient traduit de l'anglais vers le français, l'année d'avant, du roumain vers le français. Donc, toutes les combinaisons linguistiques sont possibles. Et l'idée, donc, c'est de faire découvrir la traduction à des jeunes, parce que la traduction n'est pas enseignée dans les cours de langue en France ou même ailleurs dans l'Union Européenne. Donc de leur faire connaître ce métier pour éventuellement susciter des vocations. Donc voilà, le concours a lieu tous les mois de novembre, le troisième jeudi du mois de novembre, de 10h à midi, donc tout le monde compose en même temps, et les établissements s'inscrivent en ligne en fait, et sont sélectionnés. Il y a un tirage au sort, parce qu'en fait il y a un certain nombre d'établissements qui sont retenus par pays, et le nombre est égal au nombre de députés au Parlement européen, parce qu'il fallait fixer une limite, on ne pouvait pas accueillir tous les établissements. Donc en France par exemple, il y a à peu près 300 établissements qui candidatent tous les ans, mais on peut en retenir que 74, parce que c'est le nombre de députés au Parlement. 74 établissements et 5 élèves maximum par établissement.
Et vous avez déjà remis le prix ?
Alors en fait, moi j'ai rendu visite aujourd'hui à la lauréate dans son établissement pour l'interviewer, pour lui demander comment elle avait trouvé cet exercice, si c'était difficile ou pas. Mais le prix est remis à Bruxelles. En fait, chaque lauréat est invité avec ses parents, avec un parent et avec son enseignant à Bruxelles pendant 3 jours. Donc il y a une journée qui est consacrée à la visite de la DGT, donc la Direction Générale de la Traduction. Donc les jeunes traducteurs voient concrètement comment travaillent les traducteurs de la Commission. On leur montre vraiment notre travail au quotidien. Le deuxième jour, ils sont reçus par le commissaire chargé du multilinguisme, donc actuellement c'est Monsieur Oettinger, et ils rencontrent les 28, ils se retrouvent ensemble, donc les 28 lauréats, donc 27 autres, et il y a tout un programme qui est organisé pour eux, une visite de Bruxelles, etc. Et les professeurs ont aussi un programme particulier pour eux, ils rencontrent les autres professeurs et ils parlent un peu d'éducation, d'enseignement des langues, etc. Donc le prix est vraiment remis à Bruxelles par le commissaire en personne.
Et depuis quand est-ce qu'il existe ce concours ?
Alors c'est la 11e édition, on a fêté les 10 ans l'année dernière, donc là en 2017, c'est la 11e année. Donc le concours a lieu en 2017 et le prix est remis en 2018 en fait, c'est pour ça que c'est toujours dit la session 2017-2018. C'est la 11e édition.
Le thème
Ça dépend des années. En fait, l'année dernière, c'était une année festive pour l'Union européenne parce qu'on fêtait à la fois les 30 ans du programme Erasmus et les 60 ans du traité de Rome. Donc, du coup, le texte en espagnol était vraiment sur la construction européenne, sur l'idée d'Europe, etc. Donc, le texte qu'a traduit Irénée Pinazzo Campillo, c'était vraiment sur les 60 ans du traité de Rome. Mais c'est différent chaque année, en fait. Ça dépend. On essaye de coller à l'actualité de l'Union européenne, mais ça peut être des textes plus généraux sur les valeurs qui nous unissent en Europe.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus précisément du métier de traducteur ?
Alors, le métier de traducteur, c'est vraiment un métier méconnu. C'est un peu le rouage obscur des activités humaines. En fait, il y a des millions de textes qui sont produits tous les jours, qui sont à disposition sur Internet, et on n'imagine pas que derrière tout ça, il y a un traducteur. Et en fait, depuis 2008, depuis la crise financière, il y a beaucoup de secteurs économiques qui ont été en récession, et pas du tout le secteur de la traduction. Et ça, on ne le sait pas forcément. C'est un secteur en pleine expansion. Il y a vraiment besoin de traducteurs. Il y a donc tous ces contenus sur Internet ou ailleurs, d'ailleurs, qui ont besoin d'être traduits. Et c'est vraiment un métier d'avenir, un métier porteur. Et l'apprentissage des langues, de façon générale, parfois on dit « mais les langues, ça mène à rien ». Les langues, ça mène à beaucoup de choses et c'est absolument essentiel de les maîtriser. Alors, pas forcément que des langues, c'est bien aussi d'avoir fait des études de droit, des études de sciences, etc. Mais avoir des langues, c'est forcément un plus. Et aujourd'hui, pour l'employabilité, on parle de plus en plus de trouver un emploi à sa sortie de l'université. Et l'idée, c'est non seulement de maîtriser sa langue maternelle et de maîtriser l'anglais, ça c'est le béaba, il faut absolument maîtriser l'anglais, mais la langue qui fait la différence, c'est la langue qui vient en plus de l'anglais. Donc c'est langue maternelle plus deux, et c'est vraiment ce que préconise l'Union européenne depuis le traité de Lisbonne, c'est d'apprendre au moins deux langues étrangères et de maîtriser ces deux langues étrangères pour pouvoir trouver facilement un emploi dans l'économie d'aujourd'hui.
Et est-ce que dans ce traité, c'est l'anglais qui est spécifiquement mentionné, ou est-ce que c'est deux langues de l'Union européenne?
Non, pas du tout. Évidemment, c'est deux langues de l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas pour but de favoriser l'anglais. C'est vrai que dans la pratique, l'anglais est relativement dominant, mais l'idée, c'est de favoriser la diversité linguistique et donc de maîtriser des langues de l'Union européenne en général, mais bien sûr autre que l'anglais, tout à fait.
Donc, que fait concrètement l'Union européenne pour la promotion du multilinguisme?
Alors, en fait, l'Union européenne pratique ce qu'on appelle le multilinguisme total. Ça veut dire que toutes les langues officielles des pays membres de l'Union européenne deviennent des langues officielles de l'Union européenne. Donc ça veut dire que chaque pays qui entre à l'Union européenne déclare une langue officielle et ça devient une langue officielle de l'Union européenne. Donc le dernier pays à être entré, c'est la Croatie en 2013, et donc le croate est devenu langue officielle de l'Union européenne. Et donc tous les documents législatifs, les directives, les règlements, les traités, doivent être traduits dans ces 24 langues officielles de l'Union européenne. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans d'autres organisations internationales, à l'ONU, qui regroupe la majorité des pays du monde, où il y a 180 États, un peu plus de 180 États membres, il n'y a que 6 langues officielles. Donc on voit bien qu'il y a eu un choix qui a été opéré, alors que dans l'Union européenne, chaque pays entre avec sa langue. Et donc tout est traduit dans ces 24 langues.
Oui, donc chaque citoyen de l'Union européenne a accès dans sa langue maternelle aux documents de l'Union européenne.
Voilà, exactement. L'idée qui est derrière ce règlement, ce régime linguistique, en fait, le régime linguistique est fixé par le règlement 1.58 du Conseil, donc le règlement numéro 1 qui a été pris en 1958 par le Conseil. Donc on voit bien l'importance politique de cette idée. C'est le premier règlement qui a été pris et qui fixe le régime linguistique. L'idée, c'est justement une idée démocratique, c'est de donner accès aux citoyens européens à une information dans sa langue. Et donc de permettre aussi aux citoyens de s'adresser aux institutions européennes dans sa langue et de recevoir une réponse dans sa langue. Donc vraiment pour pouvoir comprendre la politique de l'Union européenne et ce qui se passe et quels sont les règlements qui s'appliquent à sa vie quotidienne et donc pouvoir comprendre comment ça fonctionne et avoir accès à cette information dans sa langue.
Et avec le Brexit, comment est-ce que l'Union européenne envisage l'utilisation de l'anglais ?
Alors, l'anglais et la place de l'anglais dans les institutions européennes ne fait pas partie des négociations qui sont sur la table dans le cadre du Brexit. Il y a différents volets qui vont être étudiés dans le cadre du Brexit ou du détricotage en fait de la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, notamment dans le domaine des douanes, dans le domaine du droit des citoyens, etc. Mais la langue n'en fait pas partie. Donc il y a deux questions qui se posent. Il y a la pratique et puis il y a l'aspect juridique. Donc, pour l'aspect juridique, il faudrait que le règlement 1.58 qui fixe le régime linguistique des institutions européennes soit modifié. Donc il doit être modifié à l'unanimité. Donc il faudrait que le Royaume-Uni demande à ce que sa langue soit retirée du règlement 1.58 et que les États membres qui restent soient d'accord à l'unanimité pour que l'anglais soit retiré des langues officielles de l'Union européenne. Et on peut imaginer que l'Irlande et Malte, qui ont comme deuxième langue officielle l'anglais, décident alors de déclarer que leur langue officielle est l'anglais, parce que l'Irlandais a déclaré, l'Irlande a déclaré l'irlandais, le gaélique, comme langue officielle, et Malte a déclaré le maltais, mais ils ont comme deuxième langue officielle tous les deux l'anglais, et on peut imaginer qu'alors ils décident de changer cette langue officielle. Et après, dans la pratique, moi ce que je dis souvent, c'est que l'anglais qu'on pratique dans les institutions européennes, qui est une langue de travail assez importante, qui permet, c'est une langue populaire dans laquelle les gens travaillent et se comprennent, c'est un anglais professionnel, en fait c'est un jargon professionnel plus que de l'anglais britannique. Et donc à la même enseigne qu'on parle le globish au niveau mondial, nous on parle l'earlish dans les institutions européennes. C'est un anglais qui décrit nos réalités professionnelles, et donc c'est plus un jargon qui nous permet de parler de cette réalité professionnelle. Donc je pense que la place de l'anglais ou de l'earlish, si on veut, ne changera pas au sein des institutions européennes après le Brexit.
Li estas homa, quadrata formo de cruel, ne nur estas croma, exemplo de querel. Li estas bona, y el aprenado ne achetel, tamen ya fripona, cachitas li a cel. Sen averto tu venos la frap, qui es dormo en via cap. Ciam opportuna, li a tactico de forpel. La ribelle per agado truda e la tabù li ci uccel e la sturmo luda li estas u la stel sen averto tu venos attac chi es dormo en via cap trafa movo del maestro de sciac e le canto de lia frap.
Et vous êtes toujours sur Canal Sud 92.2 en FM, canalsud.net de 20h à 21h. Esperanto Magazino, émission spéciale dans le cadre de la semaine de l'Europe. La diversité linguistique en Europe, la traduction et l'espéranto. On vient d'écouter une traductrice de la Commission européenne. Comme elle l'a signalé, le multilinguisme est un principe inscrit dans les traités européen. Il y a 23 langues officielles en Europe. Les citoyens ont accès dans ces 23 langues aux décisions de l'UE. L'enseignement des langues est valorisé, la traduction est encouragée dans toutes ses combinaisons, comme avec le concours Juvenes Translatores dont nous avons parlé ce soir. Mais est-ce que la situation est pour autant satisfaisante ? Sans trop élargir aux problèmes généraux de l'Union européenne, si on s'intéresse seulement à la situation linguistique, tout n'est pas parfait. Et celle-ci pose aussi des problèmes au niveau démocratique. Entre l'affichage et la pratique réelle, est-ce que l'écart tend à se réduire ou à augmenter ? Et quid des langues minorisées ? Des Européens dont la langue maternelle n'est pas officielle en Europe. Selon des données de l'Union européenne,
Outre ses 23 langues officielles, elle recense plus de 60 langues régionales ou minoritaires, dont le nombre de locuteurs s'élève à 40 millions de citoyens. Une initiative citoyenne européenne sur le droit des minorités a d'ailleurs été lancée en 2017, intitulée Minority Safe Pack, nous sommes 1 million à signer pour la diversité de l'Europe. Minority Safe Pack peut être traduit par plan de sauvetage des minorités et elle a réuni plus d'1 million de signatures, notamment pour la préservation des langues minorisées en Europe. L'initiative a été soutenue par l'Union fédéraliste des communautés ethniques européennes, UFCE en anglais, FUEN, et a répondu à tous les critères pour que ces propositions soient au moins étudiées par la Commission européenne, qui en tiendra compte ou pas. Si après le Brexit, l'anglais devient la langue officielle d'un autre pays que le Royaume-Uni pour rester langue officielle de l'Union européenne et justifier son usage massif, quelle langue devrait être sacrifiée ? Le maltais ? Ou l'irlandais ? Et si Malte et l'Irlande ont le droit à 2 langues officielles ? Pourquoi pas les autres pays ? Et l'Espagne choisira-t-elle le basque ou le catalan ? La France, le corse ou le breton ? L'UE a 23 langues officielles, mais dès qu'il s'agit de langues de travail à l'intérieur des institutions, on tombe déjà à 3, anglais, allemand, français, et dans les fêtes, souvent à 2 ou à 1. Et cet anglais de Bruxelles, ce jargon professionnel, est-il suffisamment bien maîtrisé par tous les professionnels et les politiques pour éviter erreurs, quiproquos et pour exprimer toutes les nuances et les précisions ? Et en dehors des décisions et communications traduites qui viennent d'en haut, pour débattre de grands sujets de société, le Parlement peut s'offrir une pléthore d'interprètes, mais les simples citoyens qui voudraient s'exprimer, échanger, ou proposer des projets qui pourraient être subventionnés, très souvent ils sont obligés de rédiger en anglais. Et la maîtrise du jargon, plus que l'intérêt ou la qualité du projet, est souvent décisif. L'Europe de Bruxelles entretient ainsi cette image technocratique et éloignée du citoyen. L'enseignement de 2 langues reste de plus en plus un vœu pieux, car dans beaucoup de pays d'Europe ou pour beaucoup d'Européens qui ne font pas de longues études, l'apprentissage d'une seule langue étrangère, qui n'amène pas toujours à la maîtrise, reste encore souvent la règle. Et parmi les 2 langues, l'anglais, s'il n'est pas officiellement obligatoire, est quand même fortement suggéré, ne serait-ce que par l'offre de langues dans les écoles, collèges ou lycées. Et pour la 2e langue, si elle arrive, la concurrence est forte pour les Européennes avec d'autres langues internationales comme le chinois, le russe ou l'arabe. Des articles des linguistes avaient dénoncé cette dominance, comme Claude Agege dans son livre « Contre la pensée unique » et notamment les conséquences culturelles de ce monolinguisme. Avec le Brexit, de nombreux articles sont parus récemment dans la presse francophone. Pour certains, les raisons sont sûrement moins la défense du plurilinguisme que le regret d'une perte d'influence de la langue française ou de la France. Mais en tout cas, la question linguistique revient sur le devant de la scène. Lors de ses vidéos parues sur l'espéranto en janvier de cette année, le célèbre vidéoblogueur Romain Filstroff, de la chaîne Linguisticae, revenait sur cette question et sur le fameux rapport Grimm.
À la demande du Haut Conseil de l'Éducation, une instance française créée en 2005 pour mener des réflexions autour de l'enseignement et de l'apprentissage des langues, un rapport est commandé à François Grimm, un économiste suisse de Genève. Ce rapport, aux conclusions inattendues, a été débattu au niveau européen même si ses recommandations n'ont jamais été écoutées. Le rapport Grimm, comme on l'appelle aujourd'hui, tente de répondre économiquement à une question de politique linguistique. 3 scénarios ont été étudiés. Dans un monde composé de plusieurs groupes linguistiques, vaut-il mieux imposer une langue naturelle à tous, demander à chaque groupe d'apprendre 2 langues étrangères choisies de façon cohérente, ou vaut-il mieux choisir une langue construite ? Pour faire simple, et mettons que nous soyons dans l'Union européenne, vaut-il mieux tous apprendre l'anglais, tous apprendre chacun 2 langues parmi les 3 les plus parlées, ou alors une langue neutre comme l'espéranto ? Parmi ces scénarios, il s'avère que le pire des 3 est le premier, pour les coûts générés par l'hégémonie linguistique, puisque cela implique un coût énorme dans les pays non anglophones, mais un bénéfice conséquent pour tous les pays anglophones, qu'ils soient d'Europe, comme le Royaume-Uni ou l'Irlande, ou non. Ainsi, le marché de la traduction serait tourné vers ces États, qui en plus économisent le coût de l'enseignement des langues étrangères et qui reçoivent l'argent des ressortissants étrangers, venus se plonger dans le bain linguistique. En 2005, l'économie est estimée à 18 milliards d'euros pour le Royaume-Uni, et l'argent apporté par ces étrangers est estimé à environ 800 millions d'euros. Tout cela, c'est sans compter les exportations de biens ou de services, ni les nombreux avantages des anglophones dans toute négociation ou situation de concurrence. Bref, c'est le scénario qui coûte le plus cher à tout le monde, mais qui rapporte très gros aux pays anglophones. Le deuxième scénario implique que chaque État apprenne deux langues parmi trois choisies, donc une situation où on met le plurilinguisme en avant. Si ce scénario réduit les inégalités, il est plus coûteux pour les pays de l'Est dont la puissance économique est pourtant inférieure. En effet, il y a de fortes chances que ce soit l'anglais, l'allemand et le français qui soient choisis. Quoi qu'il arrive, ce scénario est irréalisable car peu stable. À terme, l'une des trois trouverait une position hégémonique. En plus des rapports économiques inégalitaires, ce scénario a bien d'autres problèmes. Dans une salle de 20 personnes, en optant pour cette politique, il est statistiquement certain qu'il y en aura toujours une qui ne comprendra pas la langue du trio choisi pour la discussion. De plus, si l'intégralité des pays russophones rentre dans l'Union Européenne, comment justifier alors que le russe ne soit pas dans le trio, sachant que celui-ci ne pourra pas être modifié, étant donné que la politique linguistique, par définition, est une politique à long terme. Le troisième scénario, c'est celui de la langue construite, comme l'espéranto. Celui-ci, si adopté, conduirait à une économie nette de 25 milliards d'euros pour l'Union Européenne, selon les estimations de 2005. Celle-ci serait certainement supérieure aujourd'hui. Cependant, l'auteur du rapport dénonce les clichés autour de cette langue qui rend ce scénario irréalisable à court terme, et même si c'est le plus intéressant sur le plan économique, politique et culturel. Choisir l'espéranto, c'est se garantir de l'hégémonie linguistique au sein comme en dehors de l'Union Européenne. En effet, comme c'est la langue de personne, elle devient de fait la langue de tout le monde. De plus, chaque pays pourrait diviser son budget enseignement par deux, et réduire le transfert de richesses vers les pays parlant la langue dominante, tout en garantissant une répartition équitable des richesses entre les pays membres. Finalement, l'apprentissage de cette langue est environ 10 fois plus rapide que celui de l'anglais. Sa diffusion est moins destructrice pour la diversité linguistique. Alors qu'autrefois, l'anglais, l'allemand et le français étaient utilisés de manière équitable, aujourd'hui, plus de 90% des rapports écrits dans les institutions européennes le sont en anglais. L'une des conclusions du rapport est sans appel. Pourquoi continuer à défendre le premier scénario alors qu'il est le plus coûteux et le plus préjudiciable pour nos langues et nos cultures, quand une solution plus simple et plus économique est disponible? Pourquoi est-ce que l'Union européenne n'a-t-elle jamais envisagé qu'il soit possible de choisir l'espéranto?
Donc sur la base du rapport Grain, notamment, mais pas seulement, de nombreuses associations espérantistes militent pour que l'UE intègre l'espéranto dans sa politique linguistique. L'Union européenne d'espéranto, par exemple, organise régulièrement des congrès et fait du lobbying sur ce thème. Il y a même un parti politique, EDE, Europe Démocratie Espéranto, qui se présente régulièrement aux élections européennes et profite de la campagne pour parler langue et démocratie. Une pétition circule pour demander l'espéranto comme langue officielle en ce moment. Un institut de langue hongrois atteste régulièrement du niveau des espérantophones pour les niveaux B1, B2 et C1 selon le cadre européen de référence pour les langues et participe à une certaine reconnaissance de la langue. Il y a 2 ans, Vytenis Andriukaitis, le commissaire européen lituanien chargé de la santé et de la sécurité alimentaire, espérantophone, s'est exprimé en espéranto lors d'une conférence sur la communication linguistique en Slovaquie. Un choix symbolique, mais qui participe aussi d'une certaine reconnaissance au plus haut niveau. Alors, pour réduire les injustices linguistiques et rendre l'Europe plus efficace ou plus proche des citoyens, est-ce que l'espéranto est une solution? Est-elle la seule solution? Est-ce que la traduction est une solution? Est-ce qu'elle est la seule solution? Et pour promouvoir le multilinguisme et sauver ces langues européennes en danger, quelles sont les solutions? Au moins, les questions se posent. Et en attendant que les choses bougent au sommet, des initiatives citoyennes se développent et sont accompagnées par des agences de l'Union européenne. De nombreux projets européens Erasmus+, par exemple, se déroulent entièrement en espéranto, entre associations espérantophones de plusieurs pays européens, sur des sujets très différents, comme la lutte contre les discriminations, l'égalité hommes-femmes ou l'enseignement des langues. Ces projets sont souvent loués pour la qualité de la communication linguistique entre les partenaires. Des écoles primaires en Europe, lancent aussi des projets européens autour de l'apprentissage de l'espéranto pour ses effets propédeutiques pour l'apprentissage d'autres langues. Nous en avons déjà parlé dans l'émission. Nous avons aussi parlé déjà de l'organisation ECEI en début d'émission en Slovaquie qui travaille beaucoup sur des projets européens de valorisation du plurilinguisme. Mais des décisions individuelles démultipliées peuvent aussi faire changer les choses. Alors, apprenons l'espéranto, mais comme ça s'apprend vite, apprenons aussi le maltais, le romani, l'occitan, le berbère et allons fêter la pluralité linguistique toulousaine le 27 mai au Forum des langues de Toulouse. Nous vous mettons plein de liens intéressants sur ces problématiques dans la semaine sur notre site esperanto-midi-pyrénées.org et la vidéo de Romain également à la page de l'émission du jour. Et un peu de musique maintenant.
Sera le dernier cours express de la saison à l'ENSET dans le quartier Saint-Aubin. 7 semaines de cours pour débutants, pour acquérir les bases et pour ceux qui le souhaitent, pouvoir participer ensuite, à tarif réduit, à une rencontre espérantophone dès cet été, SES en Slovaquie ou Yoko Iyoko en Espagne.
Voilà, et si vous voulez retrouver tout l'agenda, rendez-vous sur notre site esperanto-midi-pyrénées.org.
Excellente semaine à tous, pardon. Kai Gis Lundo.
Gis Lundo, bonne soirée à tous. Merci aux invités. Gis. Merci.